On est bon dans l'ordi.
Ouais, j'ai pas meublé, hein. Ce que je dis, c'est sincère. Ça va, vous me croyez sur ce coup-là? Le premier qui en doute, on se voit tout à l'heure. Et croyez-moi, quand je charge, il me manque juste les cornes. J'ai toujours un souci de pouvoir connecter mon iPad avec l'ordinateur là-bas. Donc je vais me servir de toi, Ben. D'accord? Ok. Ce matin, j'ai. Est-ce qu'il y en a ici qui parlent espagnol? Un poco? Donc il n'y a personne? Personne ne parle. Non? Bah, ça. Ouais. De toute façon, ça tombe bien, on n'en a pas besoin. Par contre, on va parler anglais ce matin. Je vais profiter que nos anglais soient devenus français pour me mettre à l'anglais. Ce matin, le thème de ma prédication. Mad. Est-ce que vous connaissez le terme mad? Alors, bien évidemment, il y en a qui vont me dire Mad Max, il y a les cinéphiles, voilà, Mad Max, le Max fou, etc. On peut dire beaucoup de choses, mais le terme mad en anglais, c'est la folie, c'est être fou. Vous confirmez, ça va? Pour l'instant, je n'ai pas dit de bêtises? Non, parce que je suis embêté parce que j'ai trois profs d'anglais dans la salle. Donc, s'il vous plaît, trois, je pense qu'il y a trois. Ouais. Bon, ça va? Ok, il n'y en a pas d'autres? J'ai pas. Mad, c'est la folie. Et clairement, et je vais développer comment dire, ce titre-là, parce que je pense que Dieu nous demande d'être des fous. Ces derniers dimanches, j'ai tendance des fois à me dire, mais ils sont complètement tarés ici, il faut que je change d'église. Non, je plaisante, hein. Non, non, c'est une bonne folie. Je parle d'une bonne folie. C'est sûr que quand vous entendez un Samuel qui crie Alléluia comme voilà, avant, j'ai pas envie de le faire crier ce matin. Bref. Pourquoi je m'y attendais autant? Bon, je l'ai un petit peu cherché. Ce mec-là, c'est un fou de Dieu. Mais dans le bon sens du terme. Parce qu'il a cette hardiesse, il a cette envie, cette soif. Je parle de toi, Samuel, je suis désolé. Tout à l'heure, j'ai parlé avec ta femme, et puis voilà, bon, désolé, aujourd'hui, c'est vous. C'est vous que je vais viser. Et vous êtes en pleine ligne de mire. En plus, vous êtes vraiment là, dans mon axe. Mais voilà. Et c'est vrai que ces derniers dimanches, on constate une certaine folie. Parce que le royaume de Dieu est une folie. Rien que, je vais, en tout respect, bien évidemment, mais rien que Dieu. Dieu a une certaine folie. Vous croyez pas? Dieu a une folie. Il a cette notion des fois de mettre à contribution une personne ou des personnes ou un peuple dans des événements, dans des sujets, dans quelque chose qu'il a envie de mettre en place. Et des fois, il y a cette folie qui est là. Je te remercie, Chanel, c'était bien. Si tu voulais que je mette un point à la fin de ma phrase, c'est exactement ce qu'il fallait que tu fasses. Bon sang, on n'est pas aidé ici, hein. Et ouais, c'est exactement mon thème. La folie. Et on va en prendre une folie. Déjà, la folie de Dieu, c'est de créer l'homme. Bon, il y a des hommes un peu moins parfaits que d'autres. Il y en a des meilleurs que d'autres? Non. Mais regardez ça. Genèse 6, 14 à 18. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu dis. Alors, en fait, Dieu parle à Noé. Vous connaissez Noé? Tout le monde connaît Noé? Clairement, ce n'est pas une légende. Je le dis, hein. Je préfère être cash. Parce que même parfois, il y a certaines personnes, on va dire, spirituelles, qui ont une stature spirituelle, qui disent que ce sont des légendes. Mais là, ce n'est pas une légende. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules. On parle de l'arche de Noé. Ça va pour ceux qui n'ont pas suivi, l'arche de Noé. Et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Et c'est juste ça que je veux souligner. Est-ce qu'il est bon de vous rappeler où habitait Noé? Clairement, c'était un peu désertique là-bas. Enfin, je suppose, j'y étais pas, mais aller conduire une arche avec 300 coudées. Alors, une coudée, c'est à peu près 50 cm. Je crois que c'est 46 de mémoire. 50 cm, ça veut dire que le bateau va faire 150 mètres de long, qu'il va faire donc 50 coudées, 25 coudées de large. On est à combien ici, Antoine, du mur à mur à mur? 22 mètres. J'ai pas entendu. Il vaut mieux peut-être. Ah, tu veux un coudé? Ça fait 44 coudées l'église ici. C'est pas dur, je multiplie par deux. D'accord? Donc imaginez 150 mètres de long, 25 mètres de large et en hauteur 30 coudées, c'est-à-dire 15 mètres de haut. Ici, on est à quoi? On est à 4, 5 mètres de haut. Pardon? Petit 5. Un petit 5. Est-ce que vous ne pensez pas que Dieu, là, est un peu fou? Excuse-moi, Seigneur. Est-ce que Noé, vous ne pensez pas que lui aussi est un peu fou? Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Il l'a fait, l'arche. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de punir l'homme. Et ça, c'est un des mensonges que des fois on dit dans nos milieux chrétiens. On dit, mais non, Dieu ne punit pas. Lisez l'Apocalypse. Donc voilà, ça c'est vraiment une notion de folie que Dieu peut avoir. Et comme ça, dans la Bible, des exemples de folie, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que vous pouvez même en nommer quelques-uns. Mais même si je ne vous demandais pas maintenant de les nommer, on va les lire. On va les lire ensemble parce qu'il y a tout un chapitre qui est dédié à ça, à la folie des hommes qui ont osé obéir à Dieu. On y va. Alors au début, alors ça va être un peu long. Donc c'est pour ça que je vais aller assez vite. Et je vais me permettre, même si voilà, ce n'est pas l'objectif ce matin, mais je vais me permettre de changer une expression. Je vais juste rajouter des mots. Et là, on va voir que la folie est complètement biblique. Parce que si je vous dis aujourd'hui que la foi est une folie, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La foi est une folie. Aujourd'hui, quand vous allez dans le monde et que vous dites au monde, moi j'ai la foi, les gens vous prennent pour un fou. Les gens vous prennent pour un fou. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les principes ou les bases du monde ne sont pas les mêmes que la base de la Bible. Et je vais essayer de vous démontrer par ça que dans notre façon de vivre, on est obligé aujourd'hui de faire appel à la foi. On est obligé, c'est une obéissance. Mais la foi, elle a une définition qui est parfois un petit peu dure à mettre en place. Vous connaissez ma définition de la foi, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de me la redire, à part Pascaline? Ouais, je l'entends, ouais. La foi, c'est croire que c'est quand c'est pas pour que ce soit. Je la refais. La foi, c'est croire que c'est quand c'est pas pour que ce soit. C'est pas français, hein, clairement. Avant, j'avais un pasteur australien. Je suis poursuivi par l'anglais, en fait. Mais j'avais un pasteur australien et c'est vrai que des fois, il fourchait dans la langue française. Et lui, il disait, voilà, la foi, c'est croire que c'est quand c'est pas pour que ce soit. Et elle est tellement bien, cette définition, parce qu'ici, la foi, eh bien, on va la voir. Et ce que je vais me permettre de rajouter ici, dans ce passage-là, dans ce chapitre-là, parce qu'on va lire le chapitre rapidement, c'est que je vais mettre la folie de la foi. Or, la folie de la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est croire que c'est quand c'est pas pour que ce soit. Ça va? C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. À cause de la foi, les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la folie de la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Et aujourd'hui, vous allez dire dans le monde que c'est Dieu qui a créé l'homme. Eh bien, on vous prend pour un fou, alors que le mec qui est en face de vous est encore plus fou en vous disant qu'on descend du singe. Quelle est la version la plus plausible? De sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Or, c'est par la folie de la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste par Dieu, car Dieu a approuvé ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. C'est à cause de la folie de la foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. Et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Par sa foi, il a échappé à la mort, il a été enlevé directement. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Être agréable à Dieu. Voilà encore une notion qui est importante. Être agréable à Dieu. Et on nous dit bien dans la Bible que sans foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir cette notion d'obéissance et de dire on ne peut pas ne pas passer par la foi pour aller vers Dieu. Oula, ça va ? Ça va ? J'en ai deux qui vont. Verset 6, or sans la folie... Merci. Oh, alors, Ben, tu sors. Non. Or, sans la folie de la foi, il est impossible d'être agréable. Ouais, ben voilà, je l'ai anticipé. Il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Waouh, 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 waouh. Ça va, ma droite ? Je vous cache pas, là, non ? Ça va ? Non ? Bon. Non, change pas, je vais la refaire celle-là. Or, sans la foi, sans la folie de la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça, on devrait le surligner dans nos Bibles. Hébreux 11, verset 6, on le surligne. Or, sans la folie de la foi, on ne peut pas être agréable. On ne peut être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Des fois, il y a des personnes qui disent, ouais, mais toi, tu viens qu'à Dieu que pour la bénédiction et la c'est écrit dans la Bible, hein. Donc si c'est écrit dans la Bible, ça veut dire que je peux le croire. Si je me sers de ma foi pour m'approcher de Dieu, forcément, Dieu va me récompenser. Parce que Dieu est un juste rémunérateur. Ouais. Parfois, on nous dit, oui, mais vous parlez un peu trop d'argent dans l'Église. Voilà, Fred. Arrête. Ben si, l'argent est un des domaines où on est obligé d'aller dans l'obéissance. On est obligé d'aller dans l'obéissance. Dernièrement, j'ai entendu un pasteur me dire « Mais il est inadmissible qu'aujourd'hui l'Église soit pauvre. » Allez, j'arrête là. Vas-y Ben. C'est par la folie de la foi que Noé est averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, en d'autres termes, d'une obéissance aveugle envers Dieu. D'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La justice, on l'obtient par la foi ? Bah ouais. C'est par la foi qu'Abraham a obéi. C'est par la folie de la foi, j'ai oublié de le mettre. C'est par la folie de la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Par foi. C'est par la folie de la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Est-ce qu'on a un Dieu riche ? Dieu est un architecte et un constructeur d'une de ville ? Vas-y Ben. C'est aussi par la folie de la foi que Sarah, âgée de 90 ans, elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance, malgré son âge avancé, 90 ans. Elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Celui qui avait fait la promesse. Ce chapitre-là, il est tellement précieux dans la Bible, tellement précieux. Imaginez, on enlève ce chapitre-là de la Bible. Je ne vais pas dire qu'on serait perdu, mais là, il y a une pleine définition de ce qu'on doit faire envers Dieu. Comment on doit agir envers Dieu ? Comment est-ce qu'on doit avoir cette folie pour lui ? Cette folie mad ? Alors certains vont me dire, mais Fred, tu aurais très bien pu nommer ton prêche folie, tout simplement, ou folie de Dieu, ou fou de Dieu. Mais fou de Dieu, c'est devenu péjoratif aujourd'hui. J'ai essayé, j'ai tapé Google, j'ai mis fou de Dieu. Oh bah, qu'est-ce que j'ai pas vu ? Eh ouais. « C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la folie de la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin et ils ont reconnu qu'un fils était étranger et voyageur sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. C'est curieux de voir une phrase comme ça dans la Bible. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Est-ce qu'il a honte ce matin d'être appelé ton Dieu ? C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a souffert, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses, et que Dieu lui ait dit « c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée ». Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. C'est par la folie de la foi qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir, qui est invisible. Non, ça doit être moi qui ai fait un mauvais copier-coller. Je vais pas lire la fin parce qu'on va y passer du temps. C'est pas le but. Là, j'ai voulu vous montrer que la foi, on a une pleine définition dans la Bible. On a un plein chapitre. Et on a non seulement ça, mais on a des exemples concrets de personnages, et qui plus est importants dans la Bible, qui ont eux-mêmes travaillé, vécu et tout fait par la foi pour être agréable à Dieu. Vas-y Ben, je crois qu'il y en a encore deux ou trois dias. Hop, vas-y zap, on va. Voilà. Je ne vais pas lire tout le chapitre. Vous voyez, il est long, hein, il y a 38 chapitres de mémoire. Vas-y, encore une fois, je crois. Ouais. Et donc, c'est la prochaine. Vas-y. Ça, c'est un dicton que Pascaline aime beaucoup. Et effectivement, c'est là où notre folie va pouvoir être un peu ce qui va nous démontrer notre hardiesse, notre cœur, notre envie, notre soif, notre faim de pouvoir servir Dieu. Parce que votre attitude... Pas votre aptitude, on parle bien de votre attitude, déterminera votre altitude spirituelle, j'entends. Votre attitude, votre folie envers Dieu, votre attitude, non pas l'aptitude à être fou, mais votre attitude dans le service de Dieu, fera en sorte que cette attitude déterminera votre altitude avec Dieu. Alors clairement, Zig Ziglar, c'est un conférencier américain qui n'est pas chrétien. Mais c'est vrai que cette définition est tellement juste. Et même si on l'adapte à nous, au domaine spirituel, elle est très juste. Votre attitude, quand vous avez un Samuel qui crie Alléluia, son attitude folle, et non pas son aptitude, même s'il a une aptitude dans la voix, peut-être à crier, peut-être plus que moi, qui n'ai pas cette aptitude à crier, mais cette attitude permet de démontrer qu'il n'a pas honte de dire que Dieu est son Dieu. Et donc ça, c'est son altitude. Je vais avoir 17 amen. Je vais la refaire ? Non, je plaisante. Est-ce que ça va ? Votre attitude, non pas votre aptitude. On a tous des aptitudes. On a tous des aptitudes. Et la preuve en est, c'est que la Bible nous parle dans Matthieu 25 des talents. Les talents, c'est quoi ? C'est ça. C'est le fait d'avoir une aptitude pour Dieu, de pouvoir mettre à profit, de pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir une expansion ou une croissance avec Dieu. Peut-être pas forcément dans des aptitudes physiques, mais aussi dans des aptitudes spirituelles, à rechercher la face de Dieu, rechercher la face de Jésus. Et la louange, elle est là pour ça, en l'occurrence, entre autres. La louange, quand on vient ici dans la louange, c'est pour venir devant la face de Jésus. Qui a passé un bon moment ce matin dans la louange ? Vous n'êtes pas obligé de lever la main, hein. Par exemple, notre bassiste ne n'a pas levé la main. Il était tellement stressé derrière sa basse qu'il n'a pas pris un bon moment ce matin. Non, je plaisante. Parce que ce que tu as joué, j'ai bien entendu ce matin, c'était top. On a des bons musicaux, ça. Oh là là, je vais la refaire. On a des bons musicaux quand même. Yes. Je reste dans l'anglais. Yes. Il me semble que c'est bon, yes. Ouais. Le fait d'avoir des bons musiciens, c'est une aptitude. C'est une aptitude. Mais malgré tout, on n'est pas là pour avoir des bons musiciens. On est là pour avoir des... Alors maintenant, il y a des nouveaux termes qui arrivent, des louangistes, des gens... Moi, je veux dire des chrétiens qui ont un cœur pour Dieu dans la louange. Des vrais, des adorateurs. Des adorateurs. Et c'est là où toute l'aptitude va prendre son ampleur. C'est quand l'attitude est bonne. Je suis parti trop loin, je crois. Non ? Vous me suivez ? J'ai vécu ce miracle et je vous en ai déjà parlé parce que je considère ça comme un miracle. J'étais tout jeune chrétien. Je venais juste de donner ma vie à Jésus. J'avais 14 ans. J'en ai 48, si vous voulez calculer. Et j'ai commencé tout juste la guitare à 14 ans. Et comme tout musicien, il arrive un moment où vous avez envie de passer un petit cap. Vous savez, vous avez envie de progresser. J'ai commencé par jouer du classique. Alors le classique, vous imaginez, les arpèges, vous tenez la guitare à la verticale, le truc, bidule. Et à un moment, eh bien, je suis rentré dans un groupe de louanges. J'avais même pas un an de guitare. Et le guitariste qui était là dans le groupe m'a dit, c'est pas grave Fred, tu viens, tu vas te mettre derrière moi, on va pas te sonoriser ta guitare, tu vas jouer et tu vas jouer. Et comme tu ne vas pas être sonorisé, eh bien, tous les canards que tu vas faire, on ne va pas les entendre. Parce que tu vas être là. Et effectivement, ça a été pour moi un miracle. Parce que j'ai pu prendre de l'assurance. J'ai pu progresser. Mais la chose qui a été le plus, pour moi, pas difficile, parce que Dieu m'a aidé à ce moment-là, c'est que lorsque je rentrais dans ma chambre avec ma guitare et que j'essayais, vous savez, on doit enchaîner des accords. C'est-à-dire qu'on doit poser plusieurs doigts à plusieurs endroits différents à un moment donné. Et faire des accords pour un guitariste ou pour un pianiste ou pour n'importe quel musicien, c'est difficile. Et j'étais là, donc je posais mes doigts un par un. Alors imaginez quand on fait des barrés. Hein. Un barré, c'est quand on met tout un doigt sur tout le manche et puis qu'on devait poser les doigts alors, là, ici, comme ça. Et puis alors arrive le moment de la musique où vous devez changer d'accord. Alors attention, je vais changer d'accord. Alors je vais mettre là, celui-là ici, comme ça. Et c'est dur, c'est dur. Et ce que j'ai fait, tout jeune chrétien que j'étais, j'ai posé la guitare et j'ai prié. Je dis, Seigneur, voilà, moi j'ai envie de jouer de la guitare pour toi. Mais regarde, regarde, j'ai pas cette souplesse de doigts qui me permet d'enchaîner mes accords. Vous me croirez ou pas, mais croyez-moi parce que c'est la vérité. Du jour au lendemain, j'ai enchaîné mes accords parfaitement. Du jour au lendemain, j'ai enchaîné mes accords. Sans plus avoir à chercher, j'ai eu cette hardiesse, j'ai fait un bond en avant. Et ça pour moi, ça a été un miracle. Et je dis ça parce que je veux encourager ceux ici qui n'ont pas cette folie des fois de dire « Ok, je vais accepter qu'on me propose de venir jouer sur une estrade, de faire des canards et puis avoir vraiment cette maladresse dans mon manche. » Et j'ai accepté ça et j'ai eu cette folie d'accepter. Et puis Dieu a permis, Dieu a béni, Dieu a été rémunérateur de mon pas de foi. Un deuxième témoignage. Toujours personnel, je ne dis pas ça pour me gargariser. Parfois, on surprend avec Pascaline, parce que Pascaline, je l'ai connue le 15 août 1900. Oh là, attention les jeunes, ne dites pas, oui, je sais, j'ai plus de cheveux. Alors, c'était 1993. Le 15 août 1993. Le 19 août, 4 jours après, Pascaline prenait son baptême. J'étais là pour son baptême, j'animais la louange. Et c'est le jour où je l'ai demandé en mariage. Ça va ? Ça va les célibataires ? Le 14 août, je la rencontrais pour la première fois. Je ne l'avais jamais vue. Le 19 août, je la demandais en mariage. Et on s'est mariés le 12 mars suivant. Ça va faire 25 ans le 12 mars prochain. 25 ans, un quart de siècle. Si ça, c'est pas être fou, j'ai toujours été un peu fou étant jeune, Encore un peu maintenant. Ouais, encore maintenant. Mais c'est pour vous donner de l'espérance, pour ceux qui ont besoin de miracles dans leur vie. La folie, parfois, va de pair avec votre foi. La folie va de pair avec votre foi. Être fou, c'est être un Noé. Un Noé à qui on va dire de construire un bateau. Alors, je vais parler en maître. Ça va, elle ne suit pas, elle est en train de parler avec son mari. Ouais, elle est complètement dissipée. Faut pas la regarder. La regardez pas, la regardez pas. Non, non, la regardez pas. Donc je parle en mètres, 150 mètres le bateau, en plein désert, où il n'y a pas la mer. La folie, c'est ça. Donc votre attitude va, pas votre aptitude, déterminera votre altitude, l'altitude. Juste, petite synthèse. Obéissance, intégrité, foi. Obéissance, intégrité, foi. C'est vraiment les trois domaines qui sont importants aujourd'hui. Dans votre folie, eh bien, vous devez avoir de l'obéissance. Parce que la folie, quand je parle de folie, je vais bien recadrer les choses. Le fait d'avoir une folie, ce n'est pas être inconscient. Là, il y a deux nuances. Parce que dans l'obéissance, il y a bien évidemment des notions bibliques. Et on se doit de rester selon ce que nous dit la Bible. Ça va? La Bible nous dit bien, nous donne des préceptes, des concepts, des promesses. Et on se doit aujourd'hui, dans notre folie, de rester obéissant. Quand Noé a obéi à Dieu, il était dans l'obéissance, mais selon ce que Dieu lui a dit. Selon ce que Dieu lui a dit. À aucun moment, il a désobéi à Dieu. Il a été dans l'obéissance. L'intégrité, avoir cette obéissance nécessite forcément une intégrité, être intègre devant Dieu, être juste. La dernière fois que j'ai prêché ici, j'ai parlé sur la justice. La justice de Dieu, être juste devant Dieu. L'intégrité, c'est ça, être intègre. Ne soyons pas des religieux. Soyons pas des religieux, ça ne sert à rien. La religion ne sera pas reconnue par Dieu. La religion ne sera pas reconnue par Dieu. Quand vous serez devant lui, vous aurez beau lui dire, moi j'étais pentecôtiste, donc j'étais meilleur que je vais dire une ânerie, l'orthodoxe. Parce que moi j'étais pentecôtiste. Seigneur, tu reconnais que les pentecôtistes? Non, je reconnais le cœur et ta foi, parce que c'est ta foi qui a fait que tu as pu t'approcher de moi. Vous savez la folie de tout à l'heure? Eh bien, on va la transformer. Parce que de par votre folie, make a difference. Oh. Make a difference. Non, je plaisante. Bon, regardez pas comme ça, hein, ça va. Hein. D'accord, je suis pas anglais, moi. Hein. J'habite à Chenourlo. Hein. Faire la différence. Et tout est là. Tout est là. Faire la différence. Faire la différence. Ces dernières semaines, quand on voit tout ce qu'on peut vivre, surtout, quand on voit ce qui se passe dans l'Église, ou même dans le monde, le monde aujourd'hui est en train de mettre en place des bases qui ne sont plus du tout bibliques. Et le pire, c'est que la Bible nous a avertis en disant que tout ce que le monde allait instaurer va être appelé bien, et que ce que nous, on va vivre, ce que la Bible dit, va être appelé mal. Vous êtes d'accord avec moi avec ça? Je suis obligé, hein, j'ai eu que deux oui. Hein, donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et il faut qu'on fasse la différence. Il faut qu'on fasse la différence. On se doit, en tant que chrétien, de faire la différence. C'est-à-dire que notre foi, notre obéissance, notre intégrité envers Dieu et notre folie, donc la définition de notre folie pour Dieu, va faire en sorte que l'on sera reconnu dans le monde. Quand vous voyez je profite qu'il n'est pas là, mais un Thierry qui va dans la rue tous les jours. Moi, je lui tire mon chapeau parce que je ne le fais pas. Même si, vous savez, je suis allé chez l'ophtalmo, et je dois porter des lunettes bientôt, soyez pas surpris, je vais mettre des lunettes. D'accord? Ça va? J'ai changé de style en un an de temps, là, donc maintenant j'ai les lunettes qui arrivent. Donc l'ophtalmo, vous savez, elle vous met un gros truc sur les machins, c'est des super lunettes, mais elles sont énormes comme ça, c'est joli. Et elle vous donne un texte à lire, parce que forcément, je commence à vieillir, donc c'est de près que j'ai du mal à lire. Donc je suis obligé de prendre les lunettes de ma femme, etc. Et en fait, le texte, c'était du Victor Hugo, et ça commençait par Satan, machin. J'ai regardé l'ophtalmo, je lui dis, Madame, je suis pasteur. Et vous êtes en train de me faire citer le nom de mon ennemi. Et ça le fait rire. J'ai fait, je vois, sur le ton de la plaisanterie, j'ai dit, mais attendez, vous ne pouvez pas demander à un pasteur de lire ça. Changez vos textes. C'est juste un petit témoignage, c'était amusant. Mais voilà, au moins j'ai semé. La prochaine fois, je la verrai dans 3 ans. Je continuerai ma démarche. Faisons la différence. Soyons des gens différents. Soyons des témoignages vivants de ce qu'est réellement un chrétien. Soyons des témoignages vivants dans notre façon de vivre, dans les différents endroits que l'on côtoie, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille. Et c'est vrai que des fois, même moi, attention, je ne suis pas parfait. Bien évidemment, je ne suis pas parfait, je suis un homme. Mais il y a pire que moi, il y a les femmes. Je plaisante. Non, non, mais voilà, soyons différents. Soyons des témoignages vivants de ce que Dieu peut faire dans nos vies. Et on entend des témoignages qui sont tellement beaux dans l'Église. Moi, j'aime entendre des témoignages. Tout à l'heure, une guérison, pour moi, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose qui nous montre qu'on a un Dieu qui est vivant. On a un Dieu qui est vivant. On a un Dieu qui est vivant. On nous dit, la Bible nous dit que voilà, Dieu a envoyé son Fils pour que quiconque croit à lui, à son sacrifice, au principe qu'il est ressuscité, qu'il a donné sa vie pour toi et moi, puisse être racheté de ses péchés et que Dieu va le reconnaître. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une démarche de ta part, de dire, OK Jésus, je reconnais que tu as donné ta vie pour moi et aujourd'hui je veux mettre ma vie en ordre parce que je sais que sans toi, ma vie, elle n'est rien. Et si tu as ce matin des attentes dans ta vie, commence par mettre Jésus dans ta vie. Si tu as des désirs, des rêves, vous savez, j'ai lu aussi une citation qui disait la meilleure façon de briser un homme qui a un rêve, c'est de lui en donner un deuxième. Parce qu'il se focalisera sur les deux rêves. Et donc, il ne pourra plus être bon sur son rêve. Ça va? Eh bien, c'est ça. Aujourd'hui, ce que je vous encourage à faire, c'est d'avoir une vision pour votre vie, d'avoir un Dieu vivant. Et en l'occurrence, je vous propose le mien parce que je sais qu'il est vivant. Je vous propose mon Dieu. Pour pouvoir dire, OK Jésus, on y va, on avance. C'est toi qui vas être dans ma vie, c'est toi que je vais prier chaque jour, c'est à toi que je vais remettre mes problèmes, c'est à toi que je vais dire, voilà, j'ai besoin d'un conjoint, d'une conjointe, parce que je suis célibataire depuis trop longtemps. Et quand j'entends le pasteur là-haut qui me dit qu'en 4 jours il s'est marié, on a un Dieu tellement bon. Et on le voit quand on vit des moments comme on a vécu ce matin dans la louange. On a un Dieu qui est bon. Il ne veut que le meilleur pour vous. Il veut le meilleur pour toi. J'avais déjà montré cette photo d'Albert Einstein. Vous voyez, pour une juste sélection, tout le monde doit passer le même examen. Vous allez devoir grimper à cet arbre. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, le monde est en train de mettre des principes en place qui fait que eux ont la vérité et nous, nous sommes dans l'erreur. Mais aujourd'hui, on met des gens dans des cadres. Quand je vois le monde du travail, là, ces derniers jours, on a visité des écoles pour Nicolas, en l'occurrence, pour penser après le bac. Ah, j'ai pris un coup de vieux, là. Et c'est beau de voir ça. Mais souvent, quand on voit les gens qui travaillent, eh bien, y a une notion qui est importante et qu'ils ont inversée parce que le monde veut ça. C'est travailler pour vivre et vivre pour travailler. Moi, je travaille pour vivre, je ne vis pas pour travailler. Je vis pour mon Dieu. Il faut mettre des priorités. Effectivement, si on reste dans des carcans ou on laisse se faire mettre dans des tiroirs, eh bien, on est fini. Mais la folie de Dieu que l'on a en nous, celle qui nous permet d'avoir un témoignage vivant, c'est de pouvoir montrer que Dieu est un Dieu qui pourvoit en tout. Il pourvoit en tout. Dans la guérison, ce matin, il y a eu un appel pour la guérison. Et je crois qu'il y aura encore des guérisons. Moi, je veux croire que mon oreille va s'ouvrir. Je veux le croire. Ce matin, j'ai Samuel et Johan qui sont venus prier pour moi. Et je crois que la guérison est là et qu'elle va arriver. Parce qu'on a un Dieu de guérison. On a un Dieu de guérison. Je vais m'arrêter bientôt. Deutéronome. Vous veillerez à vous conformer à ce que l'Éternel, votre Dieu... Je la refais. Vous veillerez à vous conformer à ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné de faire. Vous ne vous en écarterez ni à droite, ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin de vivre et d'être heureux, de vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession. Ça, c'est une promesse tellement belle. Tellement belle. On a un pays que Dieu nous a promis. On a une vision dans notre vie que Dieu a installée dans ton cœur, et à toi de rentrer dans cette vision. À toi de rentrer dans cette promesse. À toi de rentrer dans ton pays promis. Pour ça, la foi et la folie. La folie de la foi. Parce que Dieu veut ça pour toi. Il veut ça pour toi. Vas-y, Ben. Tout le monde connaît ça? C'est ma conclusion. Est-ce que tout le monde connaît? Ça s'appelle un wash. Qui sait d'où ça vient? Ouais, faites pas les ignorants. Hein. Faites pas les ignorants, hein. Ça vient de Nike. Vous savez la marque de chaussures Nike? Nike. Quelle a été la devise de Nike? On va rester dans l'anglais. Hein. Vas-y Ben. Maintenant fais-le. Vas-y. Maintenant fais-le. Just do it. Juste fais-le. Fais-le. Tu as tout entre tes mains. Et c'est pour ça que j'avais envie de parler aussi des mains. Les mains sont là pour plein de choses. On a deux mains au bout des bras. Et elles sont là pour plein de choses. Mais en l'occurrence, elles sont là pour bénir. Vos mains sont là pour bénir. Vous pouvez faire une caresse ou donner une gifle. La caresse est meilleure. Ou un coup de poing. Vous pouvez imposer les mains au malade pour qu'il soit béni et guéri. Vous pouvez serrer une main et montrer que vous êtes complètement inoffensif. Vous pouvez prendre dans vos bras. D'accord? Vous pouvez faire des gestes malsains ou des bons gestes. Un petit coucou. On va rester en Angleterre. Maintenant, fais-le. Tu as tout dans tes mains, tu as tous les outils dans tes mains pour pouvoir mettre ta vision en pratique. Pour ça, tu dois rentrer dans cette foi, dans cette folie pour Dieu. Cette folie de croire que ta foi va se développer et va grandir. Amen. On va se lever, on va prier ensemble. Et dans le prier ensemble, j'ai bien dit ensemble. On va prier vraiment pour que Dieu se révèle là maintenant. Dieu va se révéler dans ton cœur ce matin. Tu as juste à ouvrir les oreilles. Je dis les, hein, parce que moi j'ouvre l'oreille. Mais j'ouvrirai mes deux oreilles. Parce que je crois réellement que Dieu a de bonnes choses pour toi. Ce matin, si tu n'es plus dans les plans de Dieu, tu dois revenir dans ses plans. Je vais même commencer par le début. Si aujourd'hui il y a quelqu'un ici qui a tendance à se dire « Mais le Dieu que le mec là-haut il est en train de m'annoncer, il a l'air d'être bien. » Et je voudrais l'accepter dans ma vie. Je vais te demander de lever ta main. Ne passe pas à côté de cette belle opportunité de croire que Dieu peut rentrer dans ton cœur, dans ta vie, qu'il peut prendre les choses en main, qu'il peut faire en sorte que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est une promesse qui est biblique. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, si tu acceptes dans ta vie, ou même pour l'instant tu ne le connais pas encore, et tu te dis, voilà, peut-être que l'amour pour Dieu arrivera après, mais je veux déjà essayer, entre guillemets. Alors on n'est pas, effectivement, on est dans un monde de consommation, parce que le monde nous éduque ça. On prend, on jette, vous savez. Et même parfois chez les chrétiens, il y a des promesses dans la Bible, on les prend, on les jette. On dit, voilà, la Bible elle dit ça, oui, bon d'accord, ça je le prends, mais un peu comme au flunch, vous savez, au flunch. Bah tiens, il y a des desserts qui sont sympas, je prends tous les desserts, je ne prends pas de plat chaud, je prends que des desserts. Parfois, eh bien, on est un peu comme ça. Prends pas, fais pas ça. Dieu, il a une plénitude. il a cette, il est plein de choses tellement bonnes. Et c'est pour ça que je t'invite ce matin. Je t'invite. Si Dieu n'est pas dans ta vie, lève ta main maintenant. Je suis le seul à te voir, parce que tout le monde va fermer les yeux. Je suis le seul à te voir et je vais prier pour toi.